cite le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Même si les deux puissances nucléaires répètent vouloir éviter la guerre, la crise entre l'Inde et le Pakistan s'est encore aggravée ce matin après que chacun des deux voisins affirmait avoir abattu des avions ennemis.
À quelques minutes de ses retrouvailles avec Kim Jong-un, Donald Trump est désormais sous pression.
Mais après le sommet de Singapour l'été dernier, lequel avait accouché d'une déclaration aux termes plutôt vagues, le président américain devra cette fois-ci obtenir des avancées concrètes sur la dénucléarisation de la péninsule.
La date du 29 mars prévue pour le Brexit ne serait plus gravée dans le marbre.
Non, pour la première fois hier, la première ministre britannique Theresa May a envisagé son report à la fin juin.
Dans votre journal également, Air France KLM qui est entrée dans une zone de forte turbulence depuis hier avec l'irruption sur prise de l'État néerlandais au capital de la compagnie.
Et pour preuve, ce matin déjà, l'action du groupe aérien perdait 13% à la bourse. La nouvelle sortie d'Emmanuel Macron accusant les participants aux manifestations violentes d'être complices du pire n'aura pas tardé à susciter la polémique, certains y voyant même là un appel à la violence de la part du président. Enfin, alors que le ministre de l'écologie, François de Rugy, s'apprête à recevoir ce soir une centaine de signataires de l'affaire du siècle, cette pétition pour le climat, nous recevrons justement dans une vingtaine de minutes Paul Valk, l'un de ces citoyens tirés au sort pour débattre avec le ministre. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera à la grande table des idées.
Il est l'auteur d'une lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser. C'est un plaidoyer qui va à contre-courant de la tendance actuelle qui prône d'arrêter de manger de la viande, qui porte aussi le mouvement du véganisme. On en parlera donc avec son auteur, Paul Ariès, politologue, et notre invité à partir de 12h55.
Merci et à tout à l'heure. Entre les deux puissances nucléaires que sont l'Inde et le Pakistan, l'heure n'est plus aujourd'hui à la sempiternelle poussée de fièvre, au regain, à la montée, voire à l'escalade des tensions, ni même à une nouvelle flambée de violence depuis l'attentat suicide perpétré le 14 février dernier contre les forces indiennes de sécurité. Des frappes de l'aviation indienne auraient fait plusieurs dizaines de morts parmi des djihadistes basés au Pakistan. Au moins 4 personnes, une mère, sa fille, son fils et une autre femme, ont été tuées. Cette autre personne blessée hier dans un échange de tirs entre militaires près de la ligne dite de contrôle. Et ce matin encore, quand le Pakistan annonce avoir abattu 2 avions indiens dans son espace aérien, l'Inde dit avoir descendu un appareil pakistanais. Autant dire que toutes les expressions caricaturales destinées à rendre compte habituellement de la fameuse tension palpable entre deux pays ne semblent plus suffire à exprimer ce qui désormais doit être clairement nommé comme des actes de guerre. Les précisions à New Delhi du correspondant de RFI pour France Culture, Sébastien Farcy.
C'est une scène inédite depuis des décennies entre l'Inde et le Pakistan. Des avions de chasse des deux armées se sont affrontés le long de la ligne de contrôle, la frontière de facto dans la région du Cachemire. Selon le gouvernement indien, tôt ce matin, un escadron pakistanais traverse cette ligne dans une position offensive et des chasseurs indiens les pourchassent. Un F-16 pakistanais est alors abattu ainsi qu'un avion indien. Les deux s'écrasent dans le territoire contrôlé par le Pakistan, ce qui crée maintenant une situation délicate. Islamabad affirme avoir arrêté le pilote indien. Selon la Convention de Genève, ce militaire devrait être rendu aux autorités indiennes par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge. Mais Islamabad cherche à se venger de l'attaque indienne d'hier contre des installations terroristes sur son sol et pourrait donc garder ce militaire ennemi comme un trophée ou une précieuse monnaie d'échange. Le Premier ministre pakistanais vient d'ailleurs à l'instant de s'exprimer dans ce sens. Imran Khan affirme qu'il est ouvert à tout dialogue avec New Delhi pour rétablir la paix dans la région.
Signe des luttes intestines en Iran entre d'un côté les modérés du régime et de l'autre les composantes les plus anti-occidentales du pouvoir. Ce matin, le président de la République islamique a décidé de refuser la démission du ministre des Affaires étrangères. Hassan Rouhani a notamment vanté les efforts incessants au service de son pays du chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif, lequel avait manifesté lundi dernier sa volonté de partir sous la pression des ultra-conservateurs. Donald Trump vient de retrouver à l'instant à Hanoï celui qu'il a présenté comme son ami Kim Jong-un, auquel il a d'ores et déjà une nouvelle fois promis un avenir radieux si toutefois la Corée du Nord acceptait enfin de renoncer à son arsenal nucléaire. Quoi qu'il en soit, après leur première rencontre en tout point historique, c'était l'été dernier, les deux hommes ne pourront plus se contenter de poignées de main qui, par le seul caractère inédit, avaient suffi à témoigner 8 mois plus tôt d'un spectaculaire rapprochement entre Washington et Pyongyang. Dominique André, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Hanoï. Alors après les symboles et autres promesses, le temps est venu des engagements concrets. En l'occurrence, la tâche la plus fondamentale consiste à présent à parvenir à une compréhension commune de ce qui impliquerait une dénucléarisation de la péninsule. Mais pour l'heure, Dominique, c'est donc encore la nouvelle poignée de main entre les deux hommes qui retient toute l'attention.
Oui, absolument. Le sommet vient d'être officiellement lancé avec cette poignée de main à l'instant qui immortalise la deuxième rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump. Elle vient de se produire. On les a vus de loin, souriant, échangeant quelques mots. Kim Jong-un était vêtu d'un costume strict Mao. C'est donc l'heure de vérité pour Donald Trump et Kim Jong-un, puisque le monde entier attend de savoir maintenant s'ils sont sur le point d'annoncer des résultats après les engagements pris à Singapour. C'est un moment très attendu pour Donald Trump, qui a besoin d'annoncer des résultats et puis d'annoncer aussi une pacification de la péninsule coréenne. Et pour Kim Jong-un aussi, il est important que quelque chose de concret sorte enfin de cette réunion. D'ailleurs, pour montrer qu'il est investi dans ce processus, l'agence de presse nord-coréenne a publié il y a quelques heures une photo où on le voit écoutant ses négociateurs qui lui font un point sur l'avancement des discussions. On le voit prendre des notes, l'air très très concentré. Donc les deux dirigeants vont maintenant passer 2 heures ensemble. D'abord en tête-à-tête pendant une vingtaine de minutes, puis un dîner est prévu. Il devrait durer un peu plus d'une heure et demie, a indiqué la Maison-Blanche. C'est un dîner qui est élargi côté américain à Mike Pompeo, le secrétaire d'État, et au chef de cabinet de Donald Trump. Côté nord-coréen, Kim sera accompagné de 2 personnes, son ministre des Affaires étrangères et son homme de confiance, Kim Jong-chol, qui s'est déjà rendu à la Maison-Blanche, donc les Américains le connaissent bien.
Merci Dominique André en direct de Hanoï avec Frédéric Quérou pour les moyens techniques. Et puis toujours s'agissant de ce sommet, j'ajoute qu'aux États-Unis, républicains et démocrates redoutent que cette nouvelle réunion ne soit une répétition de la première. Mais au-delà du simple scepticisme quant à l'issue donc de ces pourparlers, quand le camp de Donald Trump reproche aujourd'hui au président de s'être trop accommodé avec le dictateur nord-coréen, l'opposition, elle, s'est plainte ces derniers jours que le chef de la Maison-Blanche n'informe pas suffisamment le Congrès de l'état d'avancement de ces négociations. Les démocrates, justement, ont par ailleurs remporté hier une première victoire face à Donald Trump avec le rejet à la chambre basse du Congrès de l'urgence nationale décrétée par le président pour pouvoir construire son mur anti-immigration clandestine. Alors, après que la Chambre des représentants à majorité démocrate a planté la première banderille, la question est désormais de savoir si le Sénat, contrôlé lui par les républicains, donnera l'estocade à mesure que des sénateurs républicains expriment leur malaise face à cette déclaration d'urgence nationale. Cette perspective semble de plus en plus probable, sauf que si ce texte était finalement approuvé par les 2 chambres du Congrès, il n'irait en revanche probablement pas plus loin. Et pourquoi ? Tout simplement parce que Donald Trump a déjà promis de le bloquer en y mettant son veto. Enfin, toujours aux États-Unis, l'ancien avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, déballera-t-il le linge sale devant la Chambre des représentants, menacé par son ancien patron et condamné à de la prison ferme ? L'ex-lieutenant repenti témoignera à partir d'aujourd'hui sur l'ingérence présumée de la Russie en faveur de Donald Trump lors de la présidentielle de 2016, mais aussi sur les affaires privées du milliardaire devenu locataire de la Maison-Blanche. Face à la pression de plusieurs de ses collègues qui menaçaient de démissionner, la première ministre Theresa May a envisagé hier et pour la première fois un report possible de la date butoir du Brexit fixée au 29 mars. Plus exactement, au cas où l'accord négocié avec Bruxelles serait à nouveau rejeté par les parlementaires britanniques le 12 mars prochain, elle leur donnera l'opportunité de choisir de quitter l'Europe sans accord ou de demander à Bruxelles un délai supplémentaire pour les négociations jusqu'à la fin juin. Alors les Européens ont d'ores et déjà laissé entendre qu'ils n'y seraient pas hostiles, sauf que les élections européennes organisées fin mai viennent compliquer la donne. Et puis reste cette question, repousser la date butoir, oui, mais pourquoi faire ? C'était le sens de l'intervention ce matin chez nos confrères de France Info du négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier.
Il n'est pas exact de dire que le plus probable, c'est le no deal. C'est une possibilité, ce n'est pas encore une probabilité. Je pense qu'on peut sauver cet accord et que les Britanniques l'approuveront, mais c'est maintenant à eux de prendre leurs responsabilités. La date du 29 mars est une date choisie par les Anglais. Si le Royaume-Uni demande une prolongation, d'abord, il faut qu'elle le demande. Ensuite, il faut que les 27 chefs d'État et de gouvernement en décident à l'unanimité. Et la question qu'ils poseront immédiatement, c'est pourquoi faire ? Et la question, c'est est-ce que, durant cette prolongation, on est sûr de ne pas se retrouver dans 3 3 mois, par exemple, dans la même situation d'impasse qu'aujourd'hui. On n'a pas besoin de beaucoup plus de temps, on a besoin de décisions. On a besoin que le Parlement britannique prenne ses responsabilités et que ceux qui veulent le Brexit, qui ont choisi de quitter l'Union européenne, assument. Et s'ils veulent vraiment quitter l'Union européenne de manière ordonnée, alors c'est ce traité, c'est pas un autre. Donc on peut donner des explications, on peut améliorer la relation future autant que les Britanniques le voudront, mais ce traité, c'est la base d'une sortie ordonnée.
On a Michel Barnier, donc négociateur en chef de l'Union européenne. Et puis j'ajoute que dès ce matin, l'Espagne, par la voix du chef du gouvernement socialiste, a indiqué qu'elle ne s'opposera pas à un report du Brexit à la condition que cela ne prolonge pas l'incertitude. Toujours en Espagne, le procès historique des 12 anciens dirigeants indépendantistes catalans continue à Madrid devant la Cour suprême. Hier, l'audition des accusés s'est achevée avec l'interrogatoire de l'ancienne présidente du Parlement régional. Place aujourd'hui aux témoins, plus de 500 sont convoqués, parmi lesquels plusieurs hommes politiques et en particulier l'ancien chef de l'exécutif espagnol Mariano Rajoy. C'est une correspondance à Madrid signée Marie-Hélène Ballestero.
Cette semaine, une vingtaine de représentants politiques doit témoigner devant la Cour suprême. Parmi eux donc, l'ancien chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. C'est sans aucun doute celui qui est attendu avec le plus d'impatience, car il était à la tête de l'exécutif espagnol au moment de la crise catalane en octobre 2017. Et c'est lui qui avait suspendu l'autonomie de la Catalogne le 27 octobre 2017 via l'application de l'article 155. Il avait alors destitué le gouvernement régional après que le Parlement catalan ait voté une déclaration unilatérale d'indépendance. Rajoy va devoir répondre aux questions de la défense de plusieurs accusés, mais aussi à celles de l'avocat du parti d'extrême droite Vox, qui joue un rôle d'accusation populaire très controversé dans ce procès. L'interrogatoire devrait être court, environ une demi-heure, mais intense, même si le juge Manuel Marchena, président de ce procès, a averti qu'il ne permettrait pas de débat idéologique. Les questions et les réponses devront donc être factuelles. Rajoy devra expliquer ce qui s'est passé en octobre 2017, lorsqu'il était au pouvoir au moment de la tentative de sécession de la Catalogne, quels ont été ses contacts avec le gouvernement catalan à ce moment-là, pourquoi a-t-il décidé de suspendre l'autonomie catalane, et puis une question centrale du procès, dans quelle mesure, d'après lui, il y a eu, oui ou non, un soulèvement violent, élément indispensable de la rébellion, le délit le plus grave dont sont accusés 9 des 12 accusés. L'ancien chef du gouvernement espagnol doit témoigner cet après-midi à partir de 16h.
Comme attendu au Nigeria, le président sortant Buhari, 76 ans, a été réélu pour un second mandat de 4 ans. Il est crédité de 56% des voix contre 41% pour son principal rival. Et comme attendu aussi, l'opposition a immédiatement rejeté ses résultats, dénonçant une parodie d'élection. Au moins 20 personnes ont été tuées, une quarantaine d'autres blessées ce matin à la gare centrale du Caire. Cela fait suite à un accident de train ayant provoqué un important incendie dans la principale gare ferroviaire de la mégalopole égyptienne. Quand l'État néerlandais, désireux de défendre ses intérêts, s'invite au capital d'Air France KLM. Une irruption surprise annoncée hier et accueillie, disons, froidement par le gouvernement français. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Cette opération intervient en réalité après plusieurs semaines de tensions entre le conseil d'administration à dominante française et le gouvernement néerlandais qui souhaite porter sa participation au niveau de celle de l'État français afin de pouvoir influencer la gestion du groupe de transport aérien. Alors dès ce matin, l'action Air France KLM a piqué du nez. Les marchés, Annabelle, ont-ils des raisons de s'inquiéter?
Ce qui est inquiétant, c'est tout d'abord la façon dont cette prise de participation s'est effectuée. Par surprise, dit-on au sein du gouvernement français, même si le feu couvait déjà depuis plusieurs semaines et que le gouvernement néerlandais avait déjà manifesté ses craintes et son exaspération sur certains dossiers, et notamment celui du non-renouvellement du patron de KLM, Peter Elbers. Plus que par surprise, c'est en force qu'elle s'effectue. Signe si elle en est donc d'une mauvaise entente. Et c'est sans doute ce qui serait le plus inquiétant pour la stabilité du groupe. Deux États actionnaires qui n'ont pas forcément la même vision stratégique n'est pas un bon moteur pour le développement d'une entreprise. On sait que la France soutient le nouveau directeur général d'Air France KLM, Ben Smith, et que celui-ci souhaite une plus grande intégration et coopération entre les deux compagnies. Quand Peter Elbers, patron de KLM, souhaite lui maintenir l'autonomie de KLM, position défendue par les Pays-Bas. N'oublions pas qu'en 2018, avec un résultat d'exploitation de plus d'1 milliard d'euros, KLM a réalisé près de 80% du résultat du groupe. groupe quand Air France multipliait les pertes et les mouvements de grève. Alors, cela va-t-il changer le rapport de force au sein du groupe? Non, pas pour le moment. Dans les accords de fusion en 2003, Air France-KLM a le pouvoir de contrôle de KLM. Depuis 2007, le patron d'Air France-KLM nomme 5 des 9 administrateurs du conseil de KLM et il est désormais dans le conseil de surveillance de KLM. Mais rappelons qu'il y a également depuis l'année dernière des actionnaires américains avec Delta Airlines et chinois avec China Eastern et ils pourraient joindre effectivement leur voix aux néerlandais. Mais surtout, cela relance la participation même de l'État français hein, qui voulait se désengager d'Air France. Si la question n'était pas taboue cet été, elle n'apparaît en tout cas plus très opportune aujourd'hui.
Merci Annabelle Grelier. Un mois jour pour jour pour rechercher un nouveau repreneur. Ce matin, comme prévu, la justice a accordé un nouveau délai à l'acierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord et ses 281 salariés lâchés par Altifort, incapables de réunir les fonds nécessaires. La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ainsi répondu positivement au souhait de l'État qui lui aussi s'est donné un mois pour trouver une solution dans ce dossier devenu un marqueur de la politique industrielle du quinquennat Macron. S'agissant du président, justement, le chef de l'État déjeunait hier à l'Élysée avec 150 élus de la région Grand Est dans le cadre du grand débat national. Emmanuel Macron en a notamment profité pour accroître la pression sur les gilets jaunes, s'insurgeant contre ce qu'il a appelé la démocratie de l'émeute. Le chef de l'État a déclaré « Lorsqu'on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire ». Steven Goyer, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors ce n'est pas la première fois que les petites phrases du président suscitent ainsi la polémique. Reste à savoir pourquoi une telle déclaration, que d'aucuns n'ont pas manqué de juger provocante. Est-ce parce qu'il se sent conforté par une cote de popularité en progression ou bien est-ce parce qu'avec une majorité de Français désormais favorable à l'arrêt du mouvement des gilets jaunes, eh bien Emmanuel Macron estime qu'affirmer son autorité lui serait bénéfique.
Alors d'abord, si ce discours prend du relief depuis hier, c'est parce qu'il vient du président de la République, mais en soi, le fait de s'attaquer au mouvement dans son ensemble s'est mis en place dans la communication gouvernementale depuis début janvier. Rappelons-nous les propos du porte-parole Benjamin Griveaux le 4 janvier. Ceux qui restent mobilisés sont désormais engagés dans un combat politique pour contester la légitimité du gouvernement et du président de la République. 5 jours plus tard, c'est au tour du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée savent qu'ils seront complices de ces manifestations-là. On retrouve déjà le terme de complice. Et cette succession de petites phrases, elle permet au chef de l'État de créer une image de deux clans, les bons et les mauvais, l'ordre et les fauteurs de troubles. D'autant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le scrutin des européennes dans peu de temps et que par ricochet, la France insoumise ou le Rassemblement national se retrouve placé côté manifestant, avec donc le choix laissé dans les urnes entre moi ou eux. Et pour le moment, la stratégie ne semble pas pénaliser, comme vous le disiez, ni la cote de popularité du chef de l'État, ni les intentions de vote pour La République En Marche.
Et puis toujours à l'occasion de ce déjeuner, donc hier, Emmanuel Macron a également ouvert une porte, Steven, une porte prudente, un retour de la taxe carbone à l'origine, rappelons-le, de la crise des gilets jaunes.
Et plus précisément d'une sorte de taxe flottante, véritable serpent de mer lorsque l'on évoque la fiscalité énergétique. Pour résumer, une taxe carburant qui baisserait lorsque le prix du baril augmente et inversement. Alors, cette idée, le gouvernement l'avait déjà relancé en novembre au début des défilés de gilets jaunes, mais elle remonte à plus loin encore, sans avoir connu un très grand succès. François Hollande l'avait notamment évoqué dans sa campagne en 2012 et la première application entre 2000 et 2002 sous le gouvernement Jospin n'avait pas fait long feu, d'abord à cause des difficultés de mise en place, mais aussi pour son efficacité assez limitée. Sur 22 mois, elle avait fait perdre à l'État 2,7 milliards d'euros et provoqué une baisse des prix à la pompe d'à peine plus de 2 centimes.
Merci Steven Goyer. S'agissant toujours d'environnement. Le ministre de l'écologie, François de Rugy, recevra lui ce soir une centaine de signataires de l'affaire du siècle, la pétition pour le climat signée par plus de 2 millions de personnes. 2 heures durant, à partir de 20h, des citoyens tirés au sort vont pouvoir débattre avec le ministre et en studio aujourd'hui avec nous justement l'un d'entre eux, Paul Valk. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Véronique Rebarotte, spécialiste environnement de la rédaction. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors peut-être monsieur Valk, pour commencer, tout d'abord pouvez-vous rapidement vous présenter, puis nous expliquer ensuite ce qui vous a convaincu de répondre donc à cette invitation du ministre, même si vous dites flairer là une possible opération de communication.
Alors, je m'appelle Paul Valk, j'ai 26 ans et je suis pas engagé de manière militante ou politique. Je suis en thèse en troisième année de doctorat et je travaille sur les coraux. J'ai signé l'affaire du siècle parce que, de manière générale, au vu de tout ce que j'ai pu apprendre personnellement, vu de toutes les informations que j'ai pu accumuler en tant que citoyen, en tant que chercheur, Je me rends compte de la catastrophe vers laquelle nous allons si l'action au niveau de nos citoyens, mais au niveau de nos gouvernements, au niveau de l'humanité entière, n'est pas à la hauteur des enjeux, des problèmes du 21e siècle, que sont tous les enjeux liés au climat.
Vous dites ne pas être engagé de manière militante. Pourquoi accepter l'invitation au ministère ce soir ?
Parce que nous sommes invités en tant que citoyens. Nous sommes invités en tant que membres de la France, en tant que Français, et en tant que personne qui a envie de porter leur voix, de porter leurs avis, de porter leurs inquiétudes. Car je pense que pour l'immense majorité d'entre nous, sommes terriblement inquiets face à l'avenir, au vu de ce que l'on sait, et en espérant obtenir d'autres réponses que l'habituelle rhétorique que l'on peut entendre dans les journaux, dans les débats, ou de la part de ces politiciens.
Une question de Véronique Robert.
Alors, beaucoup de ceux que vous avez contactés sur les réseaux sociaux, vous ne connaissiez pas, vous serez sans ce soir, vous avez dit, vous avez fait le calcul, on a 120 minutes, 2 heures pour parler au ministre, vous êtes dit, bon, on va quand même se préparer, vous êtes rencontrés. Quel message vous voulez faire passer très concrètement au ministre ? D'abord, vous regrettez qu'il n'y ait que François de Rugy, parce que vous dites que le climat, c'est une affaire de plein de ministères.
Bien sûr. C'est la preuve même que le gouvernement n'a pas écouté l'affaire du siècle, qui demandait à pouvoir rencontrer bien évidemment le ministre de la transition écologique, mais aussi le ministre de l'économie, le ministre de l'agriculture, le premier ministre, car la transition écologique, c'est pas une variable d'ajustement au sein d'un programme gouvernemental. C'est un des projets les plus importants que peut avoir un gouvernement.
Colonne vertébrale, enfin.
Voilà, c'est vraiment une colonne vertébrale. Du coup, la première chose, c'est déjà de demander pourquoi est-il seul et n'est-ce pas un symptôme de l'inaction de ce président. Je voudrais dire aussi, nous, au début, on s'est dit, c'est terrible, on va être 100, on a 120 minutes, et le ministre va accaparer la parole pendant au moins la moitié du temps. On s'est rendu compte ce matin que nous étions pas 100, nous sommes 170. Ça a été annoncé chez vos confrères de France Info. Donc du coup, nous aurons encore moins de temps de parole. Et donc, il est en fait très peu probable que nous arrivions à laisser passer un message quelconque.
Alors, votre message, vous dites, moi, on est tous, hein, on s'informe, on est conscient de cet urgent climatique. Pourquoi un gouvernement ou un ministre n'arrive pas, qui a sûrement les mêmes infos que nous, voire d'autres peut-être plus alarmistes, ne s'engage pas, mais aussi inactif?
Monsieur de Rugy a annoncé précédemment considérer que nous étions dans l'état d'urgence climatique, et je suis entièrement d'accord avec lui là-dessus. Le problème, c'est que il faut pour cela que les agissements ne viennent pas que de lui, mais ne viennent de partout. Et ils viennent bien évidemment des citoyens. L'affaire du siècle est la pétition la plus signée de l'histoire de France, ce qui est quand même un beau symbole de l'engagement des citoyens et du fait que les citoyens sont prêts à agir. On peut oublier un peu tous ces discours qui nous disent les citoyens ne sont pas d'accord, les citoyens sont contre, etc. Et il faudrait que les mesures puissent venir vraiment à l'échelle entière de tout le gouvernement. Et tant que cela va à l'encontre des projets d'autres ministères, de projets à court terme économique, nous ne pourrons rien faire. Le problème de la transition, c'est que c'est quelque chose qui est long. On parle d'un projet qui doit agir de manière continue et prioritaire sur au moins 30 ans. C'est pas du tout une échelle qui est possible dans un système dont la politique change tous les 5 ans maximum.
Et vous vous dites, quand on reparle là de la taxe carbone en débat, François Rugy l'a dit ce matin, en même temps, le ministre dit « Vous êtes gentils, les citoyens, mais quand on fait quelque chose, on met une taxe en place, vous respectez, et puis si on fait rien, vous respectez aussi, c'est pas assez ou c'est trop. » Vous vous dites quoi ? En tout cas, on est prêt, si on nous l'explique aussi, à agir.
Voilà. Alors déjà, la première chose, c'est mettre une taxe, c'est très bien. Si elle a du sens et si elle permet de faire quelque chose pour l'écologie, c'est mieux. Donc déjà, c'est un des points qui est important. Il faut que les choses aient du sens. Il faut que les citoyens considèrent que ce qu'on leur demande ait du sens. La seconde chose sur tout ça, c'est que il y a pléthore d'experts qui nous donnent plein de possibilités de choses que l'on peut faire.
Des solutions.
Plein de ces solutions ne passent pas forcément par la mise en place d'une taxe supplémentaire. Bien sûr qu'à un moment, il va falloir qu'on fasse un effort. Et si cet effort est justifié, c'est parfait. Mais on n'est pas uniquement dans le besoin de mettre une taxe. Il y a plein de solutions qui existent.
Vous êtes jeune, vous avez 26 ans, les jeunes manifestent en ce moment pour le climat. Vous êtes chercheur, vous l'avez dit, doctorant sur le CORAC. Et savoir que votre objet de recherche est menacé à assez court terme, vous avez dit, ça m'angoisse terriblement.
Bien sûr, j'ai commencé à travailler de manière très, très honnête. J'ai eu la chance de pouvoir me lancer sur une thèse sur les coraux en tant à la base que physicien. Donc je m'intéresse plutôt à de la physique et je ne m'intéressais pas particulièrement à l'écologie. Et en fait, je me suis sensibilisé à l'écologie face à l'évidence sur le terrain, face à l'évidence dans les publications et dans la communauté scientifique. On a du mal aujourd'hui dans la communauté scientifique à croire ce que l'on sait. Les choses sont plus qu'affreuses au vu de ce que l'on sait. Et il est très probable que l'immense majorité des coraux disparaissent d'ici 30 à 50 ans. On se demande toujours quel est le sens de notre démarche, quel est le sens de mon métier. Et personnellement, en tant que citoyen, comment je peux aider et participer à un peu à la grande histoire de l'humanité pour éviter qu'on fonce trop vite dans le mur et qu'on y tombe tous.
Et on terminera là-dessus. Merci Paul Valk d'avoir répondu à notre invitation et bon courage ce soir donc pour votre rendez-vous avec le ministre. Merci également à Véronique Robérotte. On termine avec un mot rapide de météo. Un temps toujours marqué par beaucoup de soleil. Quant aux températures, elles restent exceptionnellement douces entre 17 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.